Esperanza, un festival en construction.
Bonjour Mimi.
Bonjour Julien.
Qu'est-ce que tu fais Mimi sur le festival, toi ?
Alors, je m'occupe d'accueillir l'artiste sur le site et de gérer l'équipe des chauffeurs.
Alors, les chauffeurs, on les appelle les runs aussi dans les festivals. Ça veut dire quoi, run ? Pourquoi run ?
Une course, donc c'est le transport d'un artiste d'un point à un autre. Et voilà, dans les runners.
Comment t'es arrivée au festival, toi Mimi ? C'est quoi l'histoire de Mireille et de Esperanza ?
En fait, j'ai déjà fait ce boulot sur divers événements culturels namurois, comme le festival du film francophone de Namur, Namur en mai. Une personne qui faisait partie de l'équipe d'Esperanza m'a contactée le jour où ils ont décidé d'organiser les runs au sein de l'équipe.
Ça fait combien de temps maintenant ?
C'est la 8e année.
T'en as pas marre ?
Non, j'en ai pas marre. C'est une chouette aventure chaque année humaine, donc jusque-là, non, j'en ai pas marre.
Tout le monde vient travailler alors qu'il y en a d'autres, et c'est l'immense majorité, qui font la fête.
Écoute, je me suis engagée comme ça. Moi, c'est quelque chose qui m'apporte vraiment beaucoup de choses, de participer à un événement avec d'autres personnes et de le faire avancer vers l'avant. Je retire vraiment beaucoup de satisfaction à ça, ce qui me fait un peu oublier les artistes que je ne vois pas sur scène.
Je vais te demander deux souvenirs, un artiste pénible et un artiste moins pénible, avec tout le devoir de réserve que tu dois avoir autour de ta fonction.
Alors, je pense que le plus pénible, ça a été... Pour moi, ça reste... c'est vraiment le plus mauvais souvenir, humainement. Et toutes les demandes qu'il y a eu, on s'imagine toujours que ça va être cool au niveau musical et tout ça, comparé au cinéma, par exemple. Mais là, c'était vraiment quelque chose d'infernal, quoi.
Et un bon souvenir, est-ce qu'il y en a quand même plusieurs de bons souvenirs ? Parce que toi, t'es quand même la première personne... Une des premières personnes que les artistes rencontrent sur le festival.
Effectivement, j'ai de bons souvenirs, notamment un avec Salif Keïta, qui vient du Mali. Et le jour où il est arrivé, je pense par hasard, j'avais un collier du Mali qui vient vraiment de là-bas parce que j'y suis allée. Et il l'a reconnu. Et en fait, il n'y a pas eu de mots vraiment échangés. Et il m'a serré la main très fort. Et voilà, c'est passé dans le regard et dans les petits gestes comme ça. Et ça, c'était vraiment très, très chouette. C'est une certaine reconnaissance. Donc, c'était vraiment bien. Et alors, oui, il y a eu d'autres trucs assez rigolos avec notamment le groupe Les Boucaques. Ça, c'était vraiment une bande. Ils avaient remarqué que moi, je voyais pas grand-chose de concert. Donc, ils venaient tout le temps dans mon bureau et on a fait vraiment la fête avec eux pendant leur séjour au festival. C'était vraiment drôle.
Alors, je voudrais qu'on parle de tes chauffeurs. C'est qui tes chauffeurs, en fait, et tes chauffeuses, parce qu'il y a quand même des chauffeuses aussi. Ils sortent d'où ? Ce sont tous des bénévoles.
Ils sont tous bénévoles, oui, et c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé sur, pour la plupart en tout cas, sur les autres événements dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont des gens que je connais personnellement, parce que j'ai vraiment besoin de travailler avec une équipe de confiance. Et sans eux, ça ne se passerait pas bien comme ça, parce qu'on connaît notre manière de travailler à chacun. Et il y a un grand respect mutuel, et c'est vraiment une grande collaboration. Et c'est vraiment chouette de les avoir à mes côtés pour participer à ce genre d'événement.
C'est quoi la journée d'un chauffeur ? Ça commence par quoi ? C'est-à-dire qu'il fait juste Namur-Floref, en fait, ou il va un peu plus loin quand même ?
Pas juste Namur-Floref. En fait, les artistes arrivent parfois de l'étranger. Alors, on va soit les chercher à l'aéroport, aux différents aéroports de Belgique, soit en gare, la gare du Midi principalement. Parfois, ils viennent dans notre festival. Alors, on fait la moitié du chemin avec l'autre festival. Donc, on s'arrête au point frontière chacun et on embarque les artistes. Et donc, la journée, ce sont quand même d'assez longs trajets. Une fois qu'ils sont sur le site, en général, ils ne bougent pas parce qu'ils participent à la fête et aux autres concerts. Et on les amène plus tard à l'hôtel quand leur journée à eux est bien finie, quoi.
Donc un chauffeur, ça bosse 7-8 heures par jour, quoi, avec des pauses.
En fait, il bosse 12 heures par jour en deux équipes. Donc il y a une équipe du matin, une équipe du soir. Mais oui, effectivement, il bosse 12 heures par jour.
Et toi, ça commence quand ta journée ? Très tôt le matin, tard le soir ?
En général, oui, il est plus ou moins 8 heures du mat. Ça c'est quand il n'y a pas d'arrivée juste avant. Et oui, c'est très tard le soir, un peu comme tout le monde, quand tout le monde est bien rentré à la maison et est dans son lit, oui.
Est-ce que tu as des souvenirs dans les 10 ans d'Esperanza, enfin dans ces 8 ans de travail, toi, au sein du festival? Est-ce que tu as des souvenirs de concerts? Je sais que tu en vois très très peu, qu'il faut te botter les fesses pour aller les voir, mais est-ce que tu as vraiment des gros souvenirs de live?
L'année dernière, notamment avec So Cold et Consort, j'ai vraiment super apprécié Fred Wesley et compagnie. C'est vraiment des grands noms pour moi, la musique que j'écoutais avant. J'ai pu voir une demi-heure de concert et ça, vraiment, ça m'a plu. J'ai évidemment vu Manu Chao. Grande ambiance avec lui, c'était même humainement après le concert, c'était assez chouette pour toute l'équipe parce que c'est quelqu'un qui est vraiment présent et qui partage non seulement avec le public mais aussi avec l'équipe en tout cas chez nous avec l'équipe du festival et ça c'était vraiment chouette, oui.
Et vous avez été les derniers, puisque vous êtes aussi souvent les derniers à voir les artistes, à raccompagner Manu Chao à l'hôtel, c'est ça?
Oui, on a été les derniers et les premiers, puisque en fait, il y avait qu'une heure de battement entre le retour à l'hôtel et le départ le lendemain. Donc oui, on n'a pas dormi beaucoup cette nuit-là, effectivement. Oui.
Est-ce qu'il arrive que des artistes n'arrivent pas, qu'on les perde, qu'il y ait des stress comme ça, ou c'est arrivé que des horaires se soient décalés comme ça à cause d'artistes qui soient perdus à la gare du Midi, notamment, ou je sais pas, dans les aéroports?
C'est assez rare parce qu'au fil des ans, on a vraiment déterminé une manière de travailler, des points de rendez-vous et tout ça. Donc, c'est vraiment assez rare. Mais je me rappelle de la première année où j'ai vraiment dû construire l'équipe et l'organisation dans le festival parce que c'était vraiment la première participation et je ne connaissais pas grand monde. Et là, on n'avait pas les infos, justement, et on arrivait parfois à la gare et le vol avait été annulé, mais l'info ne m'était pas parvenue. Mais ça s'est passé la première année. Après, bon, on n'est jamais à l'abri d'un retard d'avion, mais il n'y a jamais de gros problèmes, de vraiment gros soucis. Et je ne pense qu'on a raté aucune entrée en scène tout au long de ces 8 années.
Alors cette année, il y a encore d'autres artistes. Est-ce que tu as regardé l'affiche?
Oui, j'ai regardé l'affiche.
Et est-ce que tu as des noms comme ça que tu as envie de voir sur scène?
Mais on va dire qu'on a envie de les voir tous, évidemment. Il y en a qui reviennent, évidemment. Donc ceux-là, je les connais. Et j'ai envie de les voir pour certains, parce que s'ils reviennent, c'est que ils ont une grande place au sein du festival, donc voilà. Et quant aux nouveaux groupes, ceux qui viennent pour la première fois, ben oui, on a toujours envie de découvrir. Donc, mais bon, citer des noms, c'est un peu difficile.
On a l'habitude de voir les artistes sur scène, ça c'est leur vie publique. Et toi, tu bosses aussi sur un côté des artistes qui est leur vie privée, quelque part. Il y a quand même des fois un décalage entre ce que l'artiste peut donner sur scène et ce qu'il est réellement derrière.
C'est toujours surprenant, effectivement, le décalage qu'il peut y avoir pour certains. Ce n'est pas une généralité, mais ils font un métier public. Et à côté de la scène, parfois, on a l'impression qu'ils sont vraiment dans leur bulle, dans leur monde, et qu'on ne peut pas les toucher, et qu'ils ne se laissent même pas toucher par le public, les fans et tout ça. C'est vraiment surprenant, parce que c'est à la fois ils viennent faire une promotion, ils viennent se vendre et certains, en dehors de la scène, n'ont pas cette aptitude-là. C'est assez drôle, je trouve, alors qu'ils sont, ils donnent un maximum une fois qu'ils sont sur les planches. Et oui, ça, c'est déstabilisant parfois.
Est-ce que tu as un artiste que tu voudrais voir ou accueillir à Esperanza?
Pouh, c'est difficile. Qui n'y a-t-on pas encore vu? Je ne sais pas, franchement. J'ai pas de nom comme ça qui me vient. Une chouette artiste belge assez nouvelle sur la scène, mais qui a déjà fait beaucoup de bruit, c'est Lassou. J'aurais bien voulu voir qui elle est en dehors de la scène. Après, voilà, il y a tellement de gens. J'ai du mal à donner des noms.
On se revoit cet été, Mimi, alors?
C'est sûr.
Bonne préparation.
Merci, Julien.
Ainsi dans la vie, pas du fric. Ainsi dans la vie, pas du fric. Ainsi dans la vie, pas du fric. Ainsi dans la vie, pas du fric.
Afrique esclavagisée, colonisée, matérialisée, dévalisée.
Ainsi donc l'Afrique boit du fric. Ainsi donc l'Afrique boit du fric. Ainsi donc l'Afrique boit du fric. Ainsi donc l'Afrique boit du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les poulevins de Sylvain, les crédits des débits, aïe aïe.
Ainsi donc l'Afrique boit du fric. Ainsi donc l'Afrique boit du fric. Ainsi donc l'Afrique boit du fric. Ainsi donc l'Afrique boit du fric.
Afrique m'a dirigé, tyrannisé, manipulé, dévalué.
Ainsi donc l'Afrique boit du fric. Ainsi donc l'Afrique boit du fric. Ainsi donc l'Afrique boit du fric. Ainsi donc l'Afrique boit du fric.
La solde des mercenaires et les armes des tortionnaires. Des milliards de francs volés à des pays souffrants. Les coups de fouet, doux fouet, les sales sous des sassous, ya ya ya.
Ainsi donc l'Afrique boit du fric. Ainsi donc l'Afrique boit du fric. Ainsi donc l'Afrique boit du fric.
Radio Esperanza.
Ainsi donc l'Afrique boit du fric.
Y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt, attends. Il faut tout le temps s'informer, il faut vraiment avoir tous les derniers documents pour pouvoir être à même de pouvoir répondre rigoureusement dans un débat avec, par exemple, la Banque mondiale et le FMI, avec leurs chiffres à eux. Hein? Et donc, on n'est pas, nous, soi-disant, des humanitaires qui planent dans l'air, non. Hein? On part de leurs documents et on leur démontre que leurs politiques sont vraiment néfastes et qu'elles créent vraiment le problème.
Est-ce que l'Afrique doit encore, après 400 ans d'esclavage, plusieurs années de travaux forcés, des milliers d'entreprises qui pillent.
Ainsi donc l'Afrique boit du fric.
Les complots du FMI et les blagues de la Banque mondiale, des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs, les fonds comptent de compte et les sales sous de sa soupe.
Ainsi donc l'Afrique boit du fric.
Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups de fouet, doux fouet, les gombos de bongo, ya ya ya.
Ainsi donc l'Afrique boit du fric. 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 Ainsi donc l'Afrique boit du fric.
Est-ce que l'Afrique doit encore? Est-ce que l'Afrique doit encore?
Ainsi donc l'Afrique boit du fric. 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 Ainsi donc l'Afrique boit du fric.
On a une certaine lecture du monde et on pense que la pauvreté n'est pas tombée du ciel. C'est pas un truc, c'est pas une maladie naturelle. La pauvreté, ça vient parce qu'il y a des rapports tout simplement scandaleux, inégaux. On met les mots qu'on veut, c'est de l'arnaque, dégueulasse.
Radio Esperanza.
René, qu'est-ce que tu fais toi sur le festival? Rappelle-moi un petit peu.
C'est la question que tout le monde pose. Ils voient un type avec des cheveux blancs qui monte, qui descend. Et qui je suis administrateur par rapport à la SBLZ qui organise ce festival. Donc on se voit plusieurs fois par année et nous discutons à la fois du fond, de la forme et puis des finances du festival. Voilà, c'est toute une réflexion de fond sur le cordon nécessaire de ce festival qui est la bourse, quoi. donc avec les mises en perspective, les risques, évaluer les risques, susciter le débat, les questions, entendre aussi ce que le pouvoir organisateur a à dire sur le festival et renvoyer aussi parfois des points d'alerte, parfois des choses positives, des sensations aussi qu'on a comme administrateur quand on est au festival par rapport à toute une thématique, par rapport à toutes des activités, tout le monde les porte d'une manière passionnelle, engagée. Nous, on est un peu à l'extérieur, donc nous, on voit l'efficacité ou pas de certaines choses. Donc, c'est très utile, en fait, d'être un petit peu à l'extérieur et en même temps très fort à l'intérieur à des moments clés qui sont des moments budgétaires.
C'est quoi ton histoire avec le festival là ?
En fait, c'est Jean-Yves est venu voir un spectacle que j'avais mis en scène sur les enfants soldats, là n'est pas obligé. Il avait apprécié le spectacle et puis j'avais promis à un des musiciens qui était là, qui est quelqu'un que j'ai découvert là-bas, qui venait d'un village et qui s'était jamais vraiment produit ni quoi que ce soit, de faire quelque chose pour lui. Donc j'ai envoyé une bouteille à la mer, sans connaître Jean-Yves, et pour qu'il rencontre ce musicien éventuellement. Et Jean-Yves avait vu le spectacle, donc il a tout de suite fait le lien. On s'est vu 2 jours plus tard, et puis je sais pas, on s'est rencontrés comme ça. Et très rapidement, des choses se sont mises en place. Notamment, Jean-Yves a reçu le CD de ce groupe. Du Burkina Faso, parce que je tiens à le dire. Et puis, il les a invités, comme ça, depuis temps blanc, sur la scène Jardin. Ils se sont retrouvés à 8, venant de leur village, à ouvrir le festival lors de l'édition 2005. C'est Ryan Newin, de Adama Ouedraogo, qui est un fidèle du festival, qui est venu plusieurs fois. Ça fait 2 ans qu'il n'est plus venu, mais il compte revenir, etc. Il y a eu ça, et ensuite, après, bon, on a enchaîné des choses, les bénéfices de 2005, on s'est servi à installer des moulins à grains pour permettre à ce groupe de continuer à répéter, un projet à la fois social, à la fois artistique, très humain. Et ensuite, j'ai fait découvrir à Jean-Yves un festival au Burkina Faso, qui est le FESDIG. Donc, j'ai emmené 2 fois l'équipe d'Espéranza en Afrique. Et je crois que ça a serré les liens entre Jean-Yves et moi, et surtout entre moi et le festival. Voilà, je crois que ça a fait du bien, peut-être d'une manière... On est dans la gare ici, donc on entend les trains.
Tu aimes bien ça, les trains, hein ?
Oui, je suis fils de cheminot, moi. Donc ça a serré les liens entre toute l'équipe et moi-même, et je crois que ça a amené un vent frais aussi dans le PO. Enfin, ceux qui sont venus, Stani est venu, Pablo est venu, et Jean-Yves est venu 2 fois. Et donc ils ont découvert un festival Espéranza à la sauce burkinabé. Donc c'était très intéressant, et depuis lors il y a un partenariat avec ce FESDIG qui vient chaque année ici pour s'inspirer, pour améliorer leur festival qui grandit et qui a été reconnu cette année-ci comme un des plus beaux festivals du Burkina Faso.
Est-ce que tu peux nous dire où on en est maintenant avec Adama et avec son groupe ? On a réécouté un petit peu les archives d'Adama et ses musiciens arrivant à Esperanza en 2005. Qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis 2005 ?
Bah, écoute, pour le moment, le Burkina Faso est en 2011. Le Burkina Faso se remet péniblement d'une réaction politique très forte de la part des gens. Donc Ouagadougou était sous couvre-feu. Ce qui veut dire que c'était déjà très difficile de venir en Europe pour un artiste du Burkina Faso. Ça l'est encore plus maintenant. Et suite à ces mouvements politiques qui viennent de la rue notamment, hein, ce sont vraiment les universitaires qui se sont levés, très justement d'ailleurs. Tout ce mouvement qui vient de l'Afrique blanche commence à gagner l'Afrique noire. Donc, ils sont un peu enclavés, hein, il faut le dire. Hein. Déjà, ils l'étaient un peu. Adama n'a plus eu ses papiers pendant près de 1 an et demi. Son visa a été confisqué pour une histoire assez obscure. Il n'y était pour rien. Je crois qu'il s'est fait un peu avoir par des gens mal intentionnés. Circuler pour un artiste africain, c'est avoir les moyens de payer son billet d'avion. Hein, et c'est très cher. Faut vous imaginer qu'un loyer là-bas est plus ou moins 100 euros par mois pour être logé très confortablement, je dirais. Donc quand on paie un billet d'avion, 600, 700, 800 euros, il faut quand même beaucoup tourner. Donc il continue à répéter avec son groupe, les moulins fonctionnent toujours, mais la situation est très difficile, très difficile.
À ton avis, qu'est-ce que ça a changé dans le parcours du groupe, le fait de jouer à Esperanza au-delà de l'accession à un festival professionnel européen, on va dire comme ça, hein, pour faire court et un petit peu caricatural. Qu'est-ce que ça a apporté au groupe d'Adama, par exemple?
Je crois d'abord une reconnaissance chez eux, une possibilité de voir si on veut entrer dans la logique occidentale, il y a des passages obligés, de voir les passages obligés, qui ne sont pas faciles, parce qu'il y a une césure. Pour rentrer dans ce monde de la communication, dans ce monde qui va très vite, même quand on est dans un festival alternatif, tout va très vite. Et je crois que ce n'est pas simple pour les artistes africains de rentrer dans ce système-là. Pas simple, mon Dieu, ça fait un peu Sarkozy ça, mais comment expliquer ça? Il faut des moyens financiers. Je veux dire, il faut des moyens financiers. Tout coûte cher, et tout coûte aussi cher là-bas qu'ici. Et ça, les gens ne s'imaginent pas. Connexion Internet, un ordinateur, ben, c'est pratiquement les mêmes prix qu'ici. Donc, à la fois, il y a un double truc. Il y a une espèce de vitesse unanime globale qui est la même pour tout le monde, qu'on soit de Chine, d'Afrique. Si on veut participer à ce mouvement magnifique, alternatif, de la musique, des festivals alternatifs. Et en même temps, il y a des réalités de pays qui sont pas les mêmes du tout, économiques. Le Burkina est quand même un pays assez pauvre. Donc, comment rentrer dans cette machine infernale, même si elle est très positive, c'est pas simple. Donc, de voir les limites, et ensuite, surtout, de vivre des grandes aventures humaines et musicales. Je crois que pendant 5 ans, ils ont vécu vraiment autour de la musique, de l'espoir de la musique. Maintenant, quand un pays se renverse, eh bien, l'espoir dans un pays, il y a des priorités. Et là, pour le moment, c'est des priorités politiques de survie. Parce que Ouagadougou était sous couvre-feu il y a peu. Hein, donc il faut le savoir, quand on est sous couvre-feu, ben on organise difficilement des répétitions le soir. Hein.
Tu n'as pas participé aux 10 années, effectivement, mais bien 7-8. Est-ce qu'il y a un moment qui t'a profondément marqué dans ces 10 dernières éditions?
Oh, il y en a plusieurs, mais c'est Mano Solo. J'étais allé voir le concert sur le plateau, sur le côté, en me faisant tout petit, parce que j'avais peur que si les musiciens me voient, qu'ils m'éjectent, je n'en sais rien. Enfin,
tu veux dire en zone backstage, hein?
Oui, c'est ça, mon Dieu. exactement ça. Je peux de temps en temps le faire, mais je n'abuse pas du tout de ça. Mais quand c'est des artistes que j'estime énormément, j'ai envie d'être au plus près pour voir un peu comment ils travaillent. Ça m'aide. Ça m'aide dans mon métier, qui est metteur en scène, acteur, ça m'aide à comprendre un peu mieux comment... L'interprétation, je sais pas. Enfin, voilà. Et au rappel, je me rappelle, je fumais une cigarette sur le côté. J'avais très très bien vécu le concert. Il est sorti et je fumais une cigarette et il m'a demandé de tirer un coup sur la cigarette avant de repartir faire les 3 chansons. Et je me rappelle, il sentait la transe tellement il avait donné. Et je me dis, on a fumé, on a tiré 2-3 tafs comme ça ensemble, dans le silence, enfin dans le silence, tout relatif, la méditation de qu'est-ce qu'il va chanter. Et à ce moment-là, j'ai une envie de lui demander une chanson, j'ai pas osé, mais j'ai vraiment pas osé. J'avais envie de lui dire, est-ce que tu peux chanter la chanson, dis-moi que je crèverai seul comme un chien en haut d'une montagne qui tombe dans la mer. Puis je dis, non, il est plus dans ce temps-là. Il est plus dans ce temps-là, il est dans un temps autre. Et je ne vais pas oser lui demander. Il y avait le camion qui était garé à côté de la scène et il y avait une femme, je crois que c'était sa compagne, avec une jeune petite fille dans ses bras. Et c'était magnifique. Et je dis non, je ne vais pas lui demander. Il est reparti. Ça, c'est un des souvenirs magnifique. Et l'année passée aussi avec le peuple de l'herbe, où j'étais sur le côté de la scène aussi, et où ils sont sortis, et je me rappelle avoir croisé le regard d'un des chanteurs, où je prenais un pied formidable, et bon, j'ai 44 ans et ils sont plutôt jeunes, et c'était côté court, tout le monde était jeune, peut-être qu'ils étaient un peu étonnés de voir un vieux jeune comme ça sous le côté qui s'éclatait la gueule comme ça, et je me rappelle, je souriais, j'étais très heureux, je bougeais beaucoup, et j'ai vu le regard du chanteur me regarder et me faire un énorme sourire, parce qu'il était content de voir quelqu'un qui prenait énormément de plaisir sur le côté, tout simplement. Ça, c'est 2 grands souvenirs. Et le dernier, c'est
allez, premier. Dernier.
Le premier, c'est quand les musiciens de Ryan Owen montent sur scène dans cette espèce de technologie incroyable. Ils sortaient de leur cours du village et j'avais dû faire, comment on appelle ça, la balance avec eux, leur expliquer. Mais eux, ils découvraient un peu ce système où il faut faire vite avec tous les redis qui... allez, il faut faire vite, il faut faire vite. Et je dis, attends, ils viennent d'Afrique, tu leur demandes de faire vite, mais calme. Ça, oui, mais non, mais t'as vu, vous avez du retard, et il faut y aller, quoi. Alors j'expliquais, et puis... ils étaient arrivés en retard parce que la femme d'Adama qui jouait un instrument là dans le groupe avait dû donner le sein, donc ils avaient 5 minutes de retard. Ils sont arrivés et puis ils ont commencé et alors les fumigènes ont sorti et ils étaient mais paniqués en disant, ils se disaient mais je vais jamais arriver à jouer avec toute cette fumée, je vais tousser quoi. Et, mais non, on ne tousse pas. Et alors la femme d'Adama, Jeanne, juste avec ma compagne, nous avait donné le bébé. Hein, voilà, et on est allé dans le public écouter le concert avec le bébé qui avait fait le chemin jusqu'ici, qui regardait sa maman et son papa sur la scène jardin. Voilà, c'est un souvenir extraordinaire qui passait de bras en bras comme ça. Un beau souvenir.
Bon, l'an prochain, c'est tout le monde en zone backstage, alors c'est ça l'alternative à Esperanza.
Ouais, 30 000 personnes backstage et un artiste sur le, tu vois, l'espace jardin avec deux pans qui font de la musique, ça va être bien ça.
Merci René.
Merci à toi.
Les coups de cœur d'Ophélie. Coup de cœur d'Ophélie.
Alors, à force de voir passer les trains à l'abbaye de Floreffe, Ophélie est partie dans l'un d'eux en vacances. Bonjour Ophélie.
Bonjour.
Alors, on va la faire par téléphone quand même, cette chronique. Hein.
Ah oui, ça fait trop pro. Après le jingle, voilà que j'ai vraiment ma chronique et qu'en plus, je suis obligée de la faire par téléphone. Magnifique, j'adore.
Alors, cette semaine, Ophélie, c'est quoi le repérage ?
Alors, le repérage, c'est... donc, j'ai encore ouvert la boîte ACD disponible dans nos bureaux et c'est Amsterdam Klezmer Band. Voilà. Ça donne la pêche, vraiment. Les cuivres, moi, je suis fan, donc voilà, je ne suis pas très objective. Mais je trouve que, voilà, j'ai hâte de les voir, de savoir si je trouve que déjà dans leur CD, ils mettent de l'ambiance et j'ai hâte de voir en vrai ce que ça donne.
Est-ce qu'il y a un morceau en particulier que tu as repéré ou on peut passer n'importe lequel ?
N'importe lequel, parce que je trouve qu'ils ont un peu tous le même ton. Sauf qu'il y en a instrumental et d'autres pas, mais l'ambiance y est et c'est ce côté-là que je voudrais faire ressortir cette semaine.
Et on se retrouve la semaine prochaine en chair et en os, hein, j'espère.
Je ne sais pas, je vais peut-être rester là où je suis pour le moment, c'est pas mal, soleil et tout, donc on verra, à la semaine prochaine.
Назвавши город Моку, был местечковым шмоком, так и хватает, ой, азоханвей. Турист, кавказец и линдей, без глупостных идей, задержится у красных фонарей. Проджав галопом по Европам, пешком пока в пешопом, в гостиницу вернется на рогах. Назвавши город Моку, был местечковым шмоком, так и хватает, ой, азоханвей. Турист, кавказец и линдей, без глупостных идей, задержится у красных фонарей. Промчав галопом по Европам, пешком по ковежопам, в гостиницу вернется на рогах. Провинциальный щеголь, мозги как гоголь-моголь, отрубится и дело его швах. Башен без крыш. И вот плетется по домраку с глазами, как у рака, и думает, что жизнь просто мед.
приехал холомидник, бродяга и бесстыдник, он тоже хочет плавно покурить. И лишь усёпчет он гашиш, неси, братишка, слышь, останется без башен и без крыш. И вот плетется подо мраку с глазами, как ураха, и думает, что жизнь просто мёд. Прохожие в заботах, в семействах и работах, а Фуца на все это не дерет. Прохожие в заботах, в семействах и работах, а Фуца на все это не дерет. Bye-bye.